Salut les amis, bienvenue dans le 8e épisode de votre podcast favori Digression, dans lequel on parle de créativité avec Lucas. La créativité, c'est un des trucs les plus importants pour nous, parce qu'on crée du contenu très régulièrement, et donc, on a besoin d'être créatif tout le temps. On peut pas se permettre d'attendre que l'inspiration nous frappe, parce qu'on a un rythme de publication à respecter sur Instagram et sur YouTube. Du coup, il faut qu'on trouve notre équilibre entre l'inspiration qu'on puise dans notre quotidien et les contenus qu'on crée tous les jours. Évidemment, tu connais, on a aussi un peu digressé en parlant de choses qu'on aimerait faire sur nos chaînes. On donne aussi notre avis sur les vidéos de divertissement qui cartonnent sur YouTube, et notre avis devrait un peu te surprendre. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode dans lequel on partage un peu plus notre quotidien que d'habitude, et donc on espère avec Lucas que ça vous plaira. D'ailleurs, si c'est le cas, si ça te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur ta plateforme de prédilection. C'est super important pour nous, pour gagner en visibilité, et tu peux aussi nous aider en partageant ce podcast à tes amis. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne écoute. Moi, je suis impressionné à quel point est-ce que la créativité chez moi, c'est vachement un truc réactif. Genre le fait de voir des choses, pas forcément dans les mêmes arts, entre guillemets, que je pratique et dans lesquels je crée. Mais même, je me souviens, il y a quelques mois, enfin en fait au début de ma chaîne, j'allais hyper souvent au musée, ouais. Et ça me donnait vachement d'idées. Alors ouais. J'avoue, maintenant, j'ai plus trop le temps, mais en plus, il y a eu les confinements et tout, mais je trouve que c'est des sources de ouf, en fait. Tu vas devoir de l'art, et du coup, je sais pas si on peut dire de s'en nourrir, mais en tout cas de s'en inspirer. Parce que ça t'oblige, alors c'est peut-être aussi ma manière d'aborder l'art, mais moi, ça me renvoie un espèce de miroir. Qu'est-ce que ça me fait et du coup, qu'est-ce qui est intéressant?
Qu'est-ce que t'as envie de provoquer chez les personnes?
Exactement. Et qu'est-ce qui provoque quoi aussi, tu vois? Le fait de voir certaines propositions artistiques et de voir ce que ça me fait. Du coup, de me dire, ah ok, ça marche comme ça.
Et puis, j'ai l'impression qu'il y a certains principes quand même qui se recoupent dans plusieurs arts, tu vois?
Ouais.
Et qui permettent d'inspirer les gens de la même manière. Par exemple, hier, je regardais, j'aime bien moi, les docus culinaires.
Ouais.
Moi, j'aime grave la bouffe, donc je regardais un docu culinaire sur Netflix. Et pour moi, la nourriture, c'est un art. Voilà, je suis pas prêt à débattre sur ça. La gastronomie, c'est un art. Et donc, je regardais ça et ça m'inspirait de fou. En fait, je sais pas, ça me stimulait. Je sais pas comment expliquer. Ça me donnait envie de me mettre au travail, alors que ça n'avait rien à voir avec la nourriture en soi. Mais j'avais
c'était
envie.
Filmé, produit, etc. De manière très artistique.
Même pas forcément. En fait, pour dire la vérité, bon, ça a quand même un petit peu un lien avec la nourriture. Je me disais que j'aimerais trop insérer un concept autour de la nourriture sur ma chaîne. Je sais pas encore comment le faire, mais s'il y a deux choses que j'ai envie d'intégrer à ma chaîne de manière un peu stylée, c'est la bouffe et le sport. Le sport, bon, c'est assez facile, genre tu peux faire des défis, des trucs, ça va, c'est cool. Et la bouffe, c'est deux dimensions de ma vie qui sont très importantes. Et la nourriture, je recherche un moyen qui fait vraiment kiffer les gens, parce que je pense qu'on peut vraiment... on réunit les gens autour de la nourriture, tu vois.
Ouais.
On réunit les gens autour d'une table, autour d'un plat, et tout le monde peut se reconnaître dans la nourriture. Parce que ça provoque des choses aux gens, tu vois. Ça provoque des choses aux gens, ça peut se maîtriser à la perfection, dans certains cas. Et donc, pour moi, c'est un certain type d'art. Et donc, vu que tu peux faire preuve de créativité et inspirer les autres, bah, ça peut pousser à créer, tu vois, quand tu regardes des trucs comme ça. Et donc, ça me donnait envie de me mettre au travail quand je regarde des documentaires. Donc tout ça pour dire que je suis pas forcément inspiré quand je regarde des vidéos de youtubeurs qui font exactement la même chose que moi, tu vois. Et du coup, je te rejoins totalement. Et le fait d'aller dans les musées et tout, je le ressens totalement aussi. Par exemple, quand je reviens de vacances, où c'est souvent une période où tu vas dans des musées sur un très court laps de temps, tu reviens, t'es inspiré en général. Je sais pas ce que t'en penses, mais...
Ouais, je suis d'accord. J'ai la même chose. Et je pense que d'ailleurs, il y a un autre truc aussi qui joue pas mal en général dans la créativité. Mais le fait de se retrouver dans des grands espaces, des lieux très volumineux, etc., ça aide vachement aussi à la créativité. Et c'est pour ça aussi que les musées sont aussi inspirants. C'est que souvent, hein, pas toujours, mais la plupart du temps, t'es dans des espaces immenses où tu vois un peu plus loin que juste le mur en face de toi, le mur de ta chambre, le mur de ton salon, où tu vas.
Tu penses que c'est parce que ce sont des trucs qui te dépassent un peu? Quand tu vois des choses qui te dépassent, ça te pousse à créer?
Je pense qu'inconsciemment, en fait, t'as un sentiment de liberté qui est plus grand et du coup de création potentielle qui est plus grand. Enfin, je sais pas si on peut dire que tu vois plus grand, mais en tout cas, t'as une plus grande sensation de liberté qui t'amène à créer de manière plus libre, du coup, je pense. Je vais te prendre un exemple extrême, mais tu vois, si tu devais créer et tout faire dans ta cave, dans un lieu clos, etc.,
je pense que t'aurais du mal à être créatif, alors que si on te met, j'en sais rien moi, sous la coupole du Grand Palais ou genre un lieu gigantesque, alors je pense que tu peux avoir de réactions. Tu peux te dire c'est étouffant dans le sens où c'est trop, mais tu peux aussi avoir la vision inverse de je me sens libre, je me sens libéré, quoi.
Ce que j'allais te demander, c'est est-ce que quand tu vois des œuvres majestueuses, ça te donne pas justement envie de te dépasser parce que inconsciemment, hein, je dis pas que tu le conscientises, mais il y a une sorte de compétition entre toi et la personne qui a créé l'œuvre. Genre, il y a des gens qui ont fait ça dans l'histoire. Vu que moi, je m'inscris un peu dans un courant créatif, je peux pas me reposer sur mes lauriers entre guillemets. Il faut moi aussi que je marque les gens, tu vois, de cette manière-là. Tu penses pas qu'il y a ça aussi ? Tu te sens inspiré et un peu tiré vers le haut, tu vois, par ces choses-là. Et donc, tu as envie d'être plus créatif.
Je dis pas que c'est le cas sur tous les sujets, mais en tout cas sur ça, sur la création, j'ai pas forcément ce rapport-là aux autres artistes, dans le sens où, pour moi, la création, en tout cas la manière dont je l'appréhende, c'est plus un truc de moi vis-à-vis de moi-même. Parce que je pense que je suis sensible d'une certaine manière à ce que peuvent créer d'autres gens. Et donc parfois, même un créateur hyper populaire, bah, y a certains trucs que je ne vais pas aimer dans ce qu'il fait. Et donc je ne vais pas vouloir le reproduire de la même manière. Donc je ne vais pas forcément me dire « je veux savoir faire ce qu'il fait pour, entre guillemets, le
battre ». Mais je ne sais pas si je suis...
C'est plus, j'ai une idée de ce que j'ai envie de créer et du coup c'est ça mon objectif. Ce n'est pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre.
Ouais, mais comment tu as des idées en voyant les autres ?
Parfois, ouais.
Tu suis des schémas. Par exemple, s'il n'y avait pas des youtubeurs bien plus bons que toi dans ce que tu fais, tu n'aurais peut-être pas envie de te dépasser à l'heure d'aujourd'hui. C'est que en rapport avec un excellent storytelling que tu vas voir ailleurs, des excellents plans, ce que tu veux, que tu vas te dire waouh, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. J'ai dit compétition, mais c'était vraiment. C'est pas oui, je veux le battre, c'est pas ça. C'est plus. Ok, le niveau, il est là, quoi.
Ouais.
Il est ici, moi, j'y suis pas encore. Et je vais tout faire pour y arriver et jouer dans cette cour-là, tu vois. Mmh. C'est plus ça que je veux dire. Et
ouais, je comprends.
Encore une fois, ça peut être explicite. Par exemple, moi, je l'explicite totalement dans le cadre des vidéos YouTube. Genre, je me dis clairement, toi, tu fais un peu ce que je fais, mais en mieux. Donc, c'est mon exemple. Mais quand je vais dans un musée, par exemple, c'est pas explicite. Mais juste, je me dis, il y a quand même des grands artistes qu'on peut peupler ce monde. Et c'est inspirant, tout simplement. Mmh. Et j'ai pas envie de me réduire à ce que je fais pour l'instant. Et j'ai envie de me pousser encore plus loin. Parce qu'il y a des gens comme ça qui me poussent à aller plus loin, tu vois.
Je suis d'accord, mais après, je pense que ça rejoint peut-être le podcast et ce que je disais quand on a parlé de perfectionnisme. Mais je crois qu'en fait, naturellement, j'ai ce truc de « j'ai envie de faire mieux ». Et quelque part, alors évidemment c'est facile à dire parce que c'est invérifiable, mais je crois que même si ce que faisaient les autres était nul, j'aurais quand même envie de m'améliorer et de faire mieux, tu vois. Après, le truc où c'est utile, je trouve, c'est que ça donne des pistes d'exploration, tu vois. Genre, par exemple, si tu prends des vidéos, la majorité des gens, quand ils regardent une vidéo, ils ont l'impression que tout se joue sur le visuel. Et en fait, tu te rends compte que non. Un visuel avec un mauvais son, les gens ne vont pas regarder les vidéos. Un visuel où il n'y a pas d'effet sonore, où il n'y a pas ces choses-là, sera beaucoup moins immersif. Et le fait, du coup, de voir des gens qui sont capables d'utiliser tous ces aspects-là, parce qu'au final, on dit audiovisuel, ce n'est pas juste visuel. Le fait de voir des gens réussir à utiliser tous ces aspects-là, du coup, te fait te dire, OK, en fait, il n'y a pas que l'image. Il y a toute cette palette de critères sur lesquels il faut que je m'améliore et sur lesquels je peux influer, tu vois. Mais après, moi, je ne suis pas trop dans la comparaison directe. Parce qu'en général, justement, quand je vois un autre créateur faire un truc, j'ai quand même envie genre, d'apporter ma version du truc, tu vois. Alors ouais, évidemment, inconsciemment, tu le fais parce que tu ne sais pas refaire exactement pareil. Mais parfois, en fait, je suis assez critique, tu vois. Genre, ça ne va jamais me sembler parfait.
Genre, ça t'est jamais arrivé, parce que tu me dis que tu aurais envie de faire mieux même s'il n'y avait personne autour. Ça t'est jamais arrivé d'être dans une situation où, comme dirait Aurel San, t'étais un gros poisson dans une petite mare.
Ouais.
Et du coup, tu te reposais sur tes lauriers.
J'adore cette citation.
C'est pas mal, hein.
Bah, je trouve qu'elle illustre ouais. Un phénomène de ouf, quoi.
Mais quelle que soit la situation, hein, est-ce que tu t'es pas déjà reposé sur tes lauriers et à un moment, t'as vu que, en fait, non. En fait, t'étais bah, justement juste un gros poisson dans, dans une petite mare et que tu pouvais faire mieux et ça t'a reboosté. Ça t'est jamais arrivé, ça?
En fait, vois pas exactement de cette manière, dans le sens où ça m'a pas reboosté ou quoi. C'est plus que ça m'a donné une nouvelle piste d'investigation.
Donc, tu vois. T'as quand même besoin des autres pour créer.
Ah ben, bien sûr. C'est ultra important. Mais ça veut pas dire que s'ils étaient pas là, j'arrêterais d'essayer d'explorer des trucs. Mais c'est plus un moyen d'aller plus vite, tu vois.
Ouais,
et de voir des angles morts, en fait.
Les inspirations, c'est quand même à la base de tout processus créatif, selon moi. Je ne peux pas créer sans inspiration. Et dire que t'as aucune inspiration, c'est un peu ce que dit Austin Kleon dans pas mal de ses travaux, notamment son livre « Voler comme un artiste ». Dire que t'as aucune inspiration, c'est mentir, en fait. C'est juste pas vrai. Tu n'as pas aucune inspiration. Il n'y a rien qui naît de rien aujourd'hui, en 2022, et même avant ça. Hein. Donc on est obligé de se nourrir. Et on est obligé de consommer pour pouvoir créer. Et c'est ce que je dis souvent. C'est souvent... c'est une bataille permanente entre la consommation et la création, en fait. Il faut consommer assez sans surconsommer, sans te laisser... écraser par les informations. Et ne pas trop créer, parce que sinon tu vas être vidé de ton jus créatif et tu seras fermé sur le monde. C'est toujours une balance permanente entre les deux, je trouve, être créatif.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je crois aussi, mais je pense que tu seras d'accord, que t'as aussi besoin de moments de calme, de solitude, de, bah, peut-être d'introspection, en fait, parfois. Et je parle de ça parce que moi, c'est un truc que j'ai en ce moment. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les vidéos que je fais en ce moment, mais parfois, ce qui me frustre un peu, c'est que j'ai l'impression de parler de sujets qui ne sont pas forcément dans mon quotidien actuellement, tu vois. J'ai pas l'impression
que c'est... Tout ça pour les besoins de la plateforme.
Pour les besoins de la plateforme et le fait de publier une vidéo par semaine. Et typiquement, du coup, je pense que les gens qui nous écoutent ne le savent pas forcément, mais en gros, à partir du moment où tu fais une vidéo par semaine, bah, potentiellement, tu vas passer réellement que 2 jours à préparer ta vidéo, et ensuite tu vas la produire, la monter, et la publier, etc. Et ça veut dire que pendant ces 2 jours, tu es censé être capable de revenir sur tout un truc qui t'est arrivé, mais qui n'a pas pu s'écouler dans les 2 jours qui se sont passés, tu vois.
Ouais.
Et je parle de ça parce que moi, j'aimerais beaucoup plus faire des espèces de... pas de retour d'expérience, mais en tout cas, de parler de problèmes que j'ai pu surmonter ou de choses qui me sont arrivées, et créer une histoire autour de ça en essayant d'en tirer les leçons que j'en ai tirées et de partager tout ça, parce que je pense que finalement c'est un peu documenter ma progression, parce que je pense que c'est ça en fait qui est intéressant et c'est ça qui aide vraiment les gens.
C'est tout le paradoxe de YouTube, et c'est tout le paradoxe du YouTube développement personnel. C'est que au début t'arrives sur YouTube, t'es tout frais, t'as plein d'outils, t'as plein de trucs à raconter, c'est cool, tu peux, t'as le matériel pour faire une vidéo par semaine, et au bout d'un moment, à force de faire des vidéos en expliquant aux gens comment se développer, t'arrêtes toi-même de te développer et t'as pas le temps de construire ces projets sur plusieurs semaines, par exemple, et de faire des retours d'expérience.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça qui est un peu relou.
C'est vrai, et puis même, moi je vois, tu vois, il y a des sujets que j'aimerais aborder.
Ouais.
Mais en fait, je me rends compte que le temps que ça me prendrait de faire le travail introspectif, de réflexion, de storytelling aussi, pour pouvoir sortir une vidéo intéressante et qui puisse aider les gens, en 2 jours, en fait, j'ai pas le temps, quoi.
Waouh. Et aussi une vidéo sans erreur, parce qu'il y a des fois où tu dois faire des recherches. Et ça serait con de lâcher des refs pour lâcher des refs, mais sans avoir fait des recherches au préalable, tu vois.
Bien sûr. Bien sûr, mais c'est, tu vois, quelque part, c'est aussi pour ça que dans mes vidéos, j'aimerais de plus en plus justement parler de moi. Parce que moi, ces recherches, je les fais aussi à titre perso, et du coup, ne pas avoir besoin, tu vois, de prendre un truc qui n'est potentiellement plus un truc qui m'arrive aujourd'hui, mais il se trouve que je trouve ça intéressant d'en parler, et du coup je suis obligé de raconter quelque chose que je ne vis plus, et du coup c'est beaucoup moins vivant, tu vois, comme émotion, comme manière de raconter, parce que c'est comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre, tu vois. Alors que l'avantage de pouvoir raconter un truc qui est en train de t'arriver, ou que t'es en train de résoudre, ou un truc qui t'habite en ce moment... Bah, c'est beaucoup plus vivant, t'es beaucoup plus lié en fait à ton contenu.
Je pense que ça se ressent.
Je pense aussi.
Toutes les vidéos que j'ai faites, je sais pas, peut-être que c'est personnel et que je le ressens parce que je l'ai vécu, mais toutes les vidéos que j'ai faites, que je vivais sur le moment, je trouve que ça se ressent dans l'écriture, dans la manière dont je raconte le truc. Toutes les fois où j'ai eu ce petit flash le dimanche avant de commencer mon script le lundi du « ça m'intéresse, ce sujet-là en ce moment, il est cool, j'ai envie de développer dessus », je pense que c'est là où je me suis le plus éclaté.
Ouais.
Mais au rythme d'une vidéo par semaine, c'est pas une majorité du temps que t'as ce petit flash, parce que t'es pas un surhumain, genre tu passes pas ton temps à, comme je disais, tu dois avoir un équilibre entre consommation, création, mais si tu, à un moment tu crées trop par rapport à ce que tu consommes, et si t'as pas assez d'input, si tu fais pas assez rentrer de choses, comment tu fais ressortir des choses en fait, tu continues à ressasser, et c'est ce que font certains créateurs, ils se complaisent dans ça, c'est la stratégie qu'ils ont décidé de mener, mais perso je me trouve limité en ce moment. Je sais pas toi, ce que t'en penses.
En termes de quoi?
De créativité.
Ouais.
Notamment en faisant une vidéo par semaine. Mais du coup, j'ai encore un peu de mal à gérer cet équilibre création-attente, tu vois. Attente de d'une plateforme.
De toi vis-à-vis de ta création ou de la plateforme vis-à-vis
de la plateforme.
Ok.
De la plateforme. YouTube, on a rien à foutre que tu sois créatif ou non. YouTube veut que tu sortes une vidéo par semaine, voire plus. Hein, si tu pouvais sortir une vidéo par jour, ça serait génial pour eux.
Une bonne vidéo par jour.
Ouais, mais il faut se lever tôt pour sortir une bonne vidéo par jour.
Bah, ou avoir... Enfin, non, j'allais dire ou avoir une équipe, mais en vrai, si tu regardes... Ouais. On parle souvent de lui, mais si tu regardes les vidéos d'Ali Abdal, même quand il fait plus d'une vidéo par semaine... Enfin, il en a fait deux pendant super longtemps, et parfois, il le fait un peu plus avec des vlogs et des trucs comme ça. Mais c'est des trucs qui sont quasiment pas écrits, très peu montés, et tu vois, c'est plus du contenu fast-food, j'ai envie de dire.
Il y a des créateurs qui préconisent de faire une vidéo par jour, hein. Mais je trouve que ça mène à une médiocrisation de la création. Moi, en me lançant sur YouTube, je me suis dit que une par semaine, c'était déjà pas mal. Là, je commence à voir les limites. Je pense que je vais peut-être partir sur un nouveau format, on verra, tu vois, c'est en réflexion. Mm-hmm. Mais à un moment, si la qualité de tes créations baisse, faut se redemander à la base pourquoi tu fais ça. Tu fais ça pour avoir une audience, tu fais ça pour quoi ou tu fais ça pour kiffer en créant.
Oui, et puis même pourquoi tu veux avoir une audience aussi, tu vois. Je pense qu'il y a tous ces trucs-là qui rentrent en compte. Et puis je pense aussi qu'il y a une grosse question par rapport à l'apprentissage. Moi, je sais que c'est ça, en fait, qui me gêne le plus. C'est le moment où, genre, j'ai l'impression que je peux plus progresser si je change pas quelque chose. Alors, du coup, il y a la possibilité de faire des vidéos moins souvent. Je réfléchis à d'autres trucs aussi, tu vois, parce que je veux pas...
Être monomaniaque.
Ouais, et puis je veux pas me dire qu'il y a qu'une réponse à un problème, tu vois. Potentiellement, il y en a d'autres, et du coup, je préfère explorer ces autres options. Et puis, je pense aussi que... une partie de ce que j'aimerais pouvoir faire en publiant moins, je peux déjà commencer à l'intégrer progressivement et donc déjà commencer à progresser. Évidemment, je pense qu'il y a un moment aussi où il y aura des limites presque physiques, dans le sens où tu veux faire des vidéos défis sur 30 jours, c'est super long à produire. Et tu vois, d'ailleurs, ça m'a amusé parce que récemment, j'ai eu un commentaire. En début d'année, j'ai fait une vidéo en disant que cette année, j'allais faire 12 défis en faisant un défi par mois. Et j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui me demandait « Où est-ce que t'en es, tu vois ?» Et déjà, j'ai trouvé ça cool. Ça veut dire qu'elle se préoccupait de mes avancées.
Elle t'a mis face à ton échec.
Non, parce qu'en vrai, je le sais, tu vois. Je l'assume parfaitement. J'en suis conscient. Et c'est ce que je lui ai répondu dans le commentaire. C'est que, en fait, j'avais complètement sous-estimé genre la charge de travail qu'il y avait derrière. Et pourtant... En fait, ce concept-là, il est un peu inspiré de Matt Diavela. Et Matt Diavela, dans sa vidéo à la fin de cette année de défi, il dit déjà, je crois qu'il n'en a fait que 10 ou 11.
Ouais.
Et il explique que, en fait, c'est une charge de travail monumentale. Et lui, il est vidéaste professionnel, donc c'est encore plus... pas simple pour lui, mais en gros, il a beaucoup plus d'expérience sur le temps que ça peut prendre, etc., par rapport à moi. Et du coup, ça m'a fait réaliser aussi que, bah ouais, il y a des trucs comme ça que tu peux pas faire, en fait, en sortant une vidéo par semaine. Parce que quand tu prépares un défi sur 30 jours, potentiellement, t'as envie de te filmer régulièrement, t'as envie de parler des avancées, t'as envie de savoir ce que tu vas dire, t'as envie de pouvoir revenir sur les leçons que ça t'a appris, etc. Et en fait, une fois que t'as passé les 30 jours et que tu te laisses quelques jours pour sortir cette vidéo-là, tu passes à côté de plein de trucs et c'est presque un peu du gâchis, quoi.
Ouais, en termes de réflexion.
Ouais, et puis même, en fait, je trouve que, tu vois, par exemple, un défi, je vais te donner un exemple au hasard, mais 30 jours sans caféine, 30 jours douche froide ou n'importe quoi, c'est des trucs que tu vas pas faire 10 fois sur ta chaîne, tu vois. Donc, quitte à le faire, je préfère le faire pleinement en tirant toutes les leçons, les bénéfices et tout, et du coup, sans me presser, en me disant, faut que telle date, 4 jours après avoir fini le défi, ma vidéo sorte, parce que je le referai pas, tu vois. Donc, une fois que la vidéo est sortie... c'est trop tard, quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au final, les quelques vidéos, je crois que j'en ai fait 3 au total, des défis que j'ai déjà faits, bah en fait c'est pas mal aussi certains défis que j'avais déjà commencé avant, tu vois.
Ouais.
Pas des trucs que j'ai fait en direct au jour le jour.
Non, c'est beaucoup de taf parce que ça demande une certaine réflexion et si t'allies la réflexion et le fait de faire une super vidéo, ça peut prendre énormément de temps. Parce que moi, c'est avec du recul, c'est un peu le défaut d'une vidéo que j'ai faite sur 30 jours vegan. Je trouve que sur le fond, en vrai, je regrette rien de ce que j'ai dit. Tu vois, j'ai pris un peu de temps pour y réfléchir. En fait, j'avais organisé ça de sorte à faire des vidéos à côté aussi. Tu vois.
Ouais.
Et je trouve qu'elle est pas mal en termes de fond, mais en termes de forme, elle est très linéaire en fait. Et il aurait fallu que j'allie. Bon, sur le moment aussi, ça commence à faire. Ça fait presque un an maintenant, mais donc. Non, ça fait 6 mois. Mais du coup, sur le moment, bon, j'avais pas peut-être les mêmes compétences qu'aujourd'hui, mais il y a quand même un défaut sur la forme, selon moi. Et donc, ouais, il faut juste prendre le temps, en fait, de pouvoir s'inspirer d'autres personnes.
Juste pour préciser, tu penses à quoi quand tu dis un défaut sur la forme ?
Bah. En fait, je fais du facecam.
Dans le story. Ok, d'accord.
Je fais du facecam.
C'est dans la réalisation
ouais,
de la vidéo.
Ouais, je fais du facecam. J'explique ce qui se passe tel jour. Et c'est tout, tu vois.
C'est un retour d'expérience.
C'est très informatif, voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, moi, c'est plus ce que je veux, tu vois.
Ouais.
J'ai envie de... J'ai pas envie que d'informer les gens. C'est cool si je les informe. C'est cool. Moi, pendant longtemps, je tenais beaucoup au fond de ce que je disais, tu vois. Peut-être pour parce qu'au début c'est important quand même de montrer que t'es pas connu.
Bah, les gens ils sont bête, là en mode. Mais je pense qu'il y a aussi un peu un espèce de syndrome de l'imposteur de je suis qui pour donner des conseils aux gens sortis de nulle part, tu vois.
En gros, en copywriting, il y a un principe qui s'appelle le what's in it for me. Genre c'est quoi pour moi ça. Enfin, genre tu sais, tu dois faire comprendre à la personne le produit. Qu'est-ce qu'elle a y gagné en fait.
Ouais.
Et quand tu lances une chaîne YouTube, surtout que c'est une chaîne de dev perso et tout. En quoi tu te démarques, tu vois. Et tu es obligé de travailler un peu sur le fond au début et de montrer que vraiment,
oui,
t'as
tu
des choses
apporter
à apporter. Voilà.
Aux gens et...
Mais après, au bout d'un moment, tu vois, c'est plus cool de s'attarder sur la forme. Et aussi, toi, de pas tomber dans le paradoxe du YouTuber dev perso qui est de rester dans sa chambre et de continuer à donner des conseils alors que toi, tu ne te développes plus.
Ouais.
La seule chose que tu développes, c'est la vitesse à laquelle tu fais tes vidéos. Donc,
la
à la limite.
De connaissances.
Voilà,
en fait.
Donc à la limite, tu peux commencer à donner des cours d'administratif sur ta chaîne YouTube. Tu peux dire à des gens comment faire ta compta et comment engager des monteurs. Mais arrête de me parler de dev perso. T'es dans ta chambre depuis 3 ans.
T'as une dent contre eux, non ?
Non,
j'ai l'impression.
J'ai pas de dent. Non, selon moi, chacun fait le contenu qu'il veut. En vrai, moi, je me sens limité dans celui-là. Mais moi, j'ai un peu de mal à comprendre comment tu peux continuer à donner, comme je te dis, des conseils de dev perso dans ta chambre sans voir le paradoxe. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mmh.
Surtout, moi, je serais curieux en fait, de discuter avec un créateur qui fait ça, dans le sens où j'aimerais comprendre comment est-ce qu'il trouve toujours de l'intérêt à ce qu'il fait, dans le sens où du coup ça devient très répétitif, et surtout il n'y a plus de partie hyper créative, inventive, nouvelle, etc. Tu vois.
Parce que tout le monde ne tient pas autant à la création que toi et moi.
Je pense que c'est un peu ça la réponse, mais tu vois, j'aimerais pouvoir justement interroger un mec pour essayer de comprendre, et potentiellement il n'y a pas que ça, tu vois. Donc
un youtubeur comme Ali Abdal, on va parler que de lui parce que bon, c'est un anglophone.
Ouais.
On va pas faire de name dropping ici, mais un youtubeur comme Ali Abdal, il s'en bat les couilles de la créativité.
De nous aussi d'ailleurs.
Il s'en bat les couilles de nous aussi, mais c'est pas grave. Il s'en bat les couilles de la créativité. Ouais. Sa chaîne YouTube, c'est une usine, c'est une entreprise.
Ouais.
Tu vois. Est-ce qu'on peut lui jeter la pierre ? C'est pas ce que je veux atteindre, c'est pas ce qui m'inspire. Moi, je suis inspiré par d'autres créateurs et c'est pas grave, tu vois.
En fait, je pense que Ali Abdal, au final, j'ai pas les stats, etc., mais je me demande s'il y a pas aussi tout un truc sur le fait que la plupart de l'audience qui touche, vu qu'il est anglophone, t'as beaucoup de pays qui ont potentiellement, et de populations qui ont potentiellement moins accès à l'information que des gens qui habitent aux États-Unis, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, etc. Et qui du coup sont hyper intéressés par du contenu purement informatif.
Je crois qu'il a énormément de Pakistanais dans ses...
Bah, je sais qu'il y a pas mal de gros youtubeurs en dev perso qui ont des grosses communautés en Inde, au Pakistan, en Indonésie aussi parfois,
d'accord.
Et aux Philippines. Parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin, c'est des pays avec une grosse population et tu vois,
ils parlent bien anglais.
Au Pakistan et tout, ils sont nombreux à parler anglais. Et du coup, pour ces gens-là, et je pense plus que juste ces gens-là, mais en tout cas, la plupart des gens qui ont un potentiellement faible accès à l'information, c'est déjà énorme et quelque part, ça leur permet aussi d'avoir les bases en développement perso en partant de zéro, tu vois. Mais je pense que pour des populations, du coup, plus, je sais pas si c'est le terme, mais plus éduqué ou en tout cas plus informé sur le sujet, l'information elle est longue. Donc tu vois, quelqu'un qui sait qu'il faut qu'il fasse du sport, qu'il dorme bien, qui s'alimentent bien, qui testent la méditation, qui se mettent à tenir un journal, etc. Quelqu'un qui le sait, c'est pas parce qu'il va revoir des vidéos sur le sujet qu'il va s'y mettre et qu'il va le faire et que ça va améliorer sa vie, tu vois. Et c'est pour ça que c'est là que la forme rentre en compte,
c'est
et
ça.
Que le fond devient moins important.
C'est ça. Une des grosses problématiques du dev perso que les gens anti-dev perso soulèvent souvent, c'est que le dev perso, il y a beaucoup de gens qui tombent dans la consommation de dev perso sans se développer. Et il y a des personnes avec leur chaîne YouTube qui répliquent ça, en fait.
Je pense que c'est le problème même de l'accès à l'information, à la surinformation, en fait. C'est que t'as des gens qui... Mais c'est comme l'actualité. Tu consommes l'actualité alors que ça ne t'apporte rien, tu vois. Et tu peux avoir ça avec le dev perso.
En fait, ouais, à un moment donné, certains YouTubeurs deviennent des... Bah,
Des informateurs.
Des informateurs. C'est même pas des vulgarisateurs, c'est des informateurs, parce que les infos dont on parle, c'est pas des trucs très sorciers, tu vois.
Surtout quand t'es déjà un peu sensibilisé à la question, et que du coup t'as les bases, tu connais les concepts, etc. Mais cela dit, je pense aussi que on a besoin aussi de ces gens-là, dans le sens où je trouve que dans le dev perso, il y a aussi beaucoup de concepts qui sont détournés, et qui du coup sont mal compris, et c'est important justement d'avoir des gens qui viennent corriger ça, tu vois. Parce que t'as aussi une notion de masse, tu vois, dans l'accès à l'information. C'est-à-dire, si la majorité des gens te disent, par exemple, que il faut pas se contenter de la motivation pour passer à l'action ou ce genre de choses, bah, ça va commencer à faire changer les mentalités. Alors que si, en fait, c'est 50-50, bah, selon les personnes sur lesquelles tu vas tomber, tu vas renforcer ta croyance et potentiellement, du coup, pas aller dans le mur, mais tu vas perdre du temps dans ton développement. Donc en bref, je pense que c'est utile, tu vois, d'avoir ces informateurs, comme on les a appelés. Mais je pense que pour la majorité des gens qui s'intéressent déjà au dev perso, c'est plus des vidéos de renforcement, tu vois, où tu vas regarder par exemple une énième vidéo sur un sujet que tu connais déjà, un peu comme un rappel, mais c'est pas forcément une vidéo qui va te pousser à passer à l'action. Et c'est là, je trouve, où la grosse nuance intervient, et le fait que moi, en tout cas, j'ai envie, et je pense toi aussi, de faire des vidéos différentes sur la forme et qui soient moins des facecam, mais un peu plus des vrais retours d'expérience que des partages d'infos, quoi.
Bah, une incarnation de tes valeurs, en fait.
Ouais,
parce que
ça,
le problème, c'est que t'as beau parler du fait que t'es un mec génial qui fait ton lit le matin, qui travaille 8 heures par jour et
je
qui...
Je fais pas mon lit le matin.
Ah ouais, c'est vrai?
Bah, j'ai fait une vidéo où je parlais de 10 micro-habitudes et en gros, j'ai dit... Je fais mon lit, etc. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut pas faire son lit tout de suite, il faut le laisser 20 minutes ouvert pour aérer.
Ça, pour le coup, je le fais.
Bah, du coup, je fais pas mon lit tout de suite, en gros. C'est ça que je voulais dire. Mais c'était pour l'anecdote. C'était pas très important.
Mais ouais, t'as beau le dire, mais à quel moment tu l'as montré? Je dis pas que ces gens-là sont des menteurs. Je dis pas que même nous, je dis pas qu'on est des menteurs. Je fais mon lit, tu vois. En fait, quoi qu'il arrive, sortir des vidéos sur une base régulière, c'est déjà une preuve assez solide de ta discipline.
Ouais,
en vrai.
Je suis d'accord.
En vrai. Mais, à un moment, ça tourne pas mal en rond. C'est pour ça que moi, en tant que créateur, je sais pas toi, j'ai envie de me diriger vers de nouvelles choses en termes de créativité. Quand on parle de la forme, qu'on clarifie les choses, c'est un peu, voilà, on a jeté des... un socle de connaissances et de valeurs sur notre chaîne. Maintenant, comment les incarner au mieux dans les futures vidéos? J'ai parlé, par exemple, de lancer peut-être des formats sur la nourriture, lancer des formats sur le sport. Moi, je suis un mec, j'aime la bonne vie au sens large, tu vois. La vie où on mange bien, mais aussi où on se dépense, la vie équilibrée, tu vois. Et je pense que ça peut être pas mal d'incarner ces valeurs sans répéter à longueur de vidéo ça. Sans le répéter, on n'a plus besoin. À un moment donné, on connaît ma mentalité, on connaît ma vie. Maintenant, ceux qui kiffent cette mentalité, ils sont montés dans le bateau et on va vers de nouvelles aventures et
en avant
pas,
les histoires.
J'ai l'impression en fait que le début d'une chaîne, c'est cool pour faire comprendre aux gens qui tu es, mais aussi pour, j'ai pas envie de dire les mettre à ton niveau parce qu'il n'y a pas de rapport hiérarchique dans ma tête, mais plus pour les... Ouais, pour qu'ils comprennent un peu ton délire et qu'ils aient les outils de base. Et une fois qu'ils ont ces outils, ils peuvent te suivre plus loin, tu vois. Genre, je peux pas commencer direct, enfin si je peux, mais c'est pas ce que j'ai fait, mais je peux pas commencer direct avec des défis sur le sport si j'ai pas déjà fait comprendre aux gens, les gars, le sport c'est important, tu vois. Je veux pas qu'il y ait des touristes qui viennent sur ma chaîne regarder des défis sur le sport, même si ça peut inspirer des gens, évidemment, c'est cool. Mais une fois que t'as énoncé à longueur de journée des valeurs, c'est cool de les incarner.
Et je pense même au-delà de ça, moi, il y a un truc que je trouve important, et c'est pour ça que je voudrais jouer sur la forme. mais en fait, forcément, ça a un impact aussi un peu sur le fond. C'est que je pense qu'une vidéo beaucoup mieux storytellée, avec plus de travail, plus d'images, plus d'illustrations au sens visuel,
ça impacte plus.
Et surtout qu'il soit plus immersif, parce que je parlais tout à l'heure du coup de l'audio, mais en fait c'est hyper important, donc que ce soit les musiques, les effets sonores, etc. Je pense que ça a beaucoup plus d'impact, et du coup potentiellement, peut-être que au lieu de faire une vidéo purement informative où tu vas parler de 5 choses différentes et tu vas un peu les lister et dire pourquoi c'est important, bah de faire une vidéo entière sur un seul truc, mais en creusant un peu plus, en montrant pourquoi, en montrant comment tu le fais, etc., en faisant un vrai retour d'expérience, en fait, comment toi tu l'as vécu, etc., je pense que ça a beaucoup plus d'impact et que ça peut inspirer des gens et les pousser à l'action. Parce qu'en vrai, c'est ça le but du dev perso, c'est de pousser les gens à l'action. C'est pas qu'ils sachent comment ils pourraient être meilleurs, mais ne pas le devenir, tu vois.
Il y a des vidéos particulières que t'aimerais faire, que t'as en tête et vraiment ça te tiendrait à cœur pour...
Genre des thèmes particuliers.
Ouais, des thèmes ou des formats ou des trucs où tu te dis vraiment ça, ça me ferait kiffer et ça inspirerait les autres.
Alors j'ai pas forcément de trucs précis, mais en gros j'aimerais bien partir d'un problème que j'ai, le résoudre et le documenter sur ma chaîne, tu vois. Et typiquement, ou alors partir d'un concept que j'aime bien, et expliquer en quoi je l'ai implémenté dans ma vie, ce que ça a changé, quel a été l'impact, et de montrer même comment j'ai fait pour l'implémenter. Okay. Parce que j'ai l'impression que c'est ça, en fait, le truc qui manque souvent dans les vidéos qui sont plus informatives que démonstratives. C'est que tu vas raconter ce que tu as fait, mais tu vas jamais le montrer, et du coup, potentiellement, les gens, la première question qu'ils vont se poser, c'est « Ok, mais concrètement, genre, c'est quoi les actions que tu as entreprises ?» Alors, évidemment, c'est mieux si les gens découvrent comment trouver ces actions par eux-mêmes, parce que c'est un des trucs aussi qui est important dans le dev perso, c'est au final de finir par être capable de se développer tout seul, tu vois. C'est cool de regarder des vidéos, etc., mais c'est encore mieux si t'es capable de lire les bouquins toi-même, ou même de manière introspective, de savoir sur quoi tu dois te développer. Mais si t'arrives à transmettre ça et à le partager, déjà, tu vas pas mal aider les gens à passer à l'action et à évoluer, quoi. Et d'où l'importance, du coup, de la forme, et du fait de réussir à communiquer des émotions à travers les vidéos que j'ai envie de faire après, quoi. Donc en termes de concept, non, j'ai pas de truc méga précis, mais tu vois, dans les idées que j'ai, c'est par exemple le fait que il y a un concept que j'aime beaucoup chez Mark Manson, c'est l'idée que dans nos vies, il y aura jamais un moment où on n'aura plus de problèmes, et que donc ce qui est important, c'est de choisir les meilleurs problèmes qu'on puisse avoir. Et donc j'aimerais parler de ça et l'illustrer, tu vois, en montrant comment améliorer ses problèmes, en fait.
Je choisis mes problèmes pendant 24 heures.
Ou faire un truc pire, c'est vous choisissez mes problèmes
sur Instagram.
C'est ce que j'allais
dire sur Instagram, on met des filles.
Pendant 24 heures. Faire une vidéo à la Michou.
Oh, name dropping.
Quoi, oh, ça va. Personne regarde Michou ici.
Non, je pense pas. Tu regardes pas Michou, toi?
Ça m'est arrivé, en vrai, j'ai regardé des vidéos de lui.
Bah pour voir, en fait, pourquoi ça marche. Ouais. C'est intéressant.
Après, j'avoue, en vrai, j'ai plus vu des feeds dans lesquels il participait que des vidéos de lui pures.
Après, en vrai, on parle rarement de vidéos divertissement, mais je pense que je préfère les vidéos divertissement que les vidéos dev perso qui sont trop restées dans leur délire de base. Bah, la dernière fois, je regardais une vidéo d'Inoxtag qui était tombée dans mes tendances.
Dans celle sur une île déserte ou...
Ouais.
Ok.
C'est inspirant, je suis désolé. Ouais. Genre, j'étais agréablement surpris par le petit. Par le petit Inox, tu vois.
C'est que vous... Non, peut-être pas. Non, j'allais dire, vous devez avoir le même âge, non, mais non, pas non, du non. Tout. Il doit avoir 18-19.
Du haut de tes 40 ans, tu crois que tout le monde a le même âge, tu vois.
On a le même âge, non?
En vrai, j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, tu vois, là, ce que t'as fait, c'est que t'as bien géré les moyens à ta disposition. Tu connais du monde, t'as de l'argent pour le faire et tout, t'as fait un truc cool.
Surtout, j'ai l'impression, alors j'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai l'impression que l'initiative vient vraiment de lui.
Ouais.
Que c'est pas.
Ouais.
Qu'ils lui ont dit, ah, ce serait cool.
Tom ne signera jamais chez.
Non, bah on va le biper, c'est sous. Tout le monde comprendra de qui je parle, mais on va le biper, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, et en plus, je trouve que dans les vidéos de divertissement, parfois, t'as vraiment des trucs où clairement, c'est sortir de sa zone de confort, tu vois. Je pense, moi, ça m'arrive de regarder régulièrement des vidéos de McFly et Carlito. Et ben hyper souvent, il y a des trucs où ils sortent de leur zone de confort, tu vois. Alors, ça peut sembler ridicule, surfait, etc. Mais, tu vois, par exemple, leur transformation physique, ok, on peut dire ils ont eu des moyens de ouf, ils avaient un entraîneur sportif qui suivait leur alimentation, leur pratique sportive, etc. Mais mine de rien, ils ont quand même été jusqu'au bout du truc, tu vois.
Mmh. Même le gars qui est allé ramener un penny à Mr Beast là, à travers l'Amérique. Je sais jamais comment il s'appelle.
Ah,
le blond,
Ryan,
là. Ryan, je sais pas. Ou Nathan.
Tram, ou...
Ouais, bon bref. Bah, ça, c'est du divertissement, mais en vrai, je sais pas. En fait, tout ce qui t'inspire d'une manière ou d'une autre, ça peut te permettre de développer.
Je crois que dans un podcast précédent, tu me disais que... Enfin, tu me demandais si la Bible, c'était du dev perso pour moi. Et je pense que c'est pareil, en fait, avec le... divertissement sur YouTube et au final un peu toutes les vidéos. Alors je sais pas si les vidéos de make-up c'est des vidéos où tu peux voir ça, mais je pense que la manière dont tu regardes la vidéo fait que tu peux considérer que c'est du dev perso ou pas. Et typiquement dans les trucs de divertissement, ouais, il y a vachement de mises en situation qui sont potentiellement des sorties de zone de confort, des prises de risques, des découvertes, etc. Tu vois.
Par exemple, si tu manges bleu pendant 24 heures et qu'à un moment donné, tu te mets à avaler du liquide vaisselle, bah, tu sors de ta zone de confort, quoi. Et en plus de ça, au passage, ça fera un créateur de moins sur la plateforme qui fait des vidéos comme ça. Donc, on est tous gagnants dans l'histoire.
Oh, la violence. Ouais, c'est en roue libre, là.
On est fatigué. Franchement, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, on est fatigué.
Tu connais en plus des vrais créateurs qui ont fait des vidéos... Moi, j'ai aucun nom, je sais même pas
bien
en fait
sûr,
qui les a vraiment.
Bah, à l'époque où c'était à la mode, j'étais sur. Enfin, je regarde déjà pas mal
de vidéos
YouTube.
Ouais, mais c'est qui ? C'est des gens qui sont encore connus aujourd'hui ?
Je sais pas ce qu'ils foutent aujourd'hui, ils doivent sûrement être sur TikTok, tu sais, ces gens-là, ils vont où le vent les mène.
Ouais.
Ils font des trends TikTok, je pense, aujourd'hui. Ils font des danses.
Ouais. Ouais. Et le truc que j'aime bien, justement, dans le fait de se mettre à changer un peu son contenu, c'est. Par exemple, un créateur comme Nathaniel Drew, qui fait des vidéos sur YouTube aussi, qui a beaucoup d'abonnés et qui est un créateur anglophone. Je trouve qu'il a vachement évolué et je trouve ça génial en fait qu'il ait réussi à faire ça, tu vois. Si tu reprends l'historique un peu de sa chaîne, pendant très longtemps, il a fait des vidéos hyper introspectives. Alors, je crois qu'il a jamais fait une vidéo par semaine. Il a toujours été sur un rythme un peu plus lent en termes de sortie de vidéos. Mais cela dit, il a une chaîne secondaire, donc c'est possible qu'en fait, il ait eu un rythme assez soutenu. Mais comme il a grossi très vite, il avait des monteurs et tout. Mais bref, tout ça pour dire que quand tu regardes l'évolution de sa chaîne, pendant peut-être 2 ans, il a été hyper introspectif. Il faisait des vidéos très personnelles, tournées vers lui, mais du coup, de retour d'expérience de ce qui lui arrive. Et je pense que c'est ça qui fait écho chez les gens, au final. Et aujourd'hui, il a vachement changé, dans le sens où j'ai l'impression que pendant longtemps, il était concentré sur lui. Et plus tourné vers son moi intérieur, on va dire, et que maintenant, il est plus en mode, bah en fait, maintenant, ça va beaucoup mieux, je me suis développé personnellement, et donc j'ai envie de partager, et donc j'ai envie de partir en voyage avec des gens, j'ai envie d'inviter des inconnus dans le meilleur restaurant du monde, j'ai envie de partir seul, surfer pour le Nouvel An et Noël au Portugal, enfin, en fait, j'ai envie de profiter du fait que maintenant, je suis capable de faire tous ces trucs-là. Et je trouve ça cool qu'il le documente de cette manière et qu'il soit pas resté dans la mentalité de « les gens me suivent parce que je suis tout seul dans ma chambre, en train de me, pas de me lamenter, mais en train de me demander pourquoi est-ce que j'arrive pas à être comme ci, à être comme ça ». Je trouve ça génial de pouvoir voir justement mais comment il a passé ce cap, tu vois.
En fait, il y a toujours un moment où pour t'améliorer dans ton art et dans tes créations, il faut quand même prendre des risques. Si demain on se met à faire 2 vidéos par mois, toi et moi, on prendra un risque en fait. On prendra le risque que d'être déréférencé sur YouTube. Et donc, je pense qu'à un moment, faut sauter le pas si tu veux vraiment accomplir des choses plus grandes que ce que tu fais actuellement et que tu sens que tu te sens limité, en fait. Et je pense qu'on en revient à la question du pourquoi. Pourquoi tu as une chaîne YouTube à la base ? Est-ce que c'est pour acquérir le maximum d'audience et faire beaucoup d'argent en AdSense ? Ou est-ce que c'est pour créer des choses qui inspirent les gens et qui donnent un effet « waouh » en fait ?
Je suis d'accord et je trouve que même ce genre de question, tu vois, qui est très introspective, bah c'est typiquement le genre de question auquel, enfin, que moi j'arrive pas à traiter en une vidéo par semaine. Ouais. Alors que c'est ce genre de question auquel j'aimerais réfléchir et mettre en scène, mais pas au sens inventer, mais mettre en scène au sens raconter en vidéo, quoi.
Ouais, non, c'est vrai. Et rien que ça, c'est un exemple de sortie de sa zone de confort, en fait. Quand on commence à faire moins de vidéos, ou qu'on... Moi, quand j'ai changé de cap sur ma chaîne, à plus d'une reprise, j'ai au moins 3 exemples, en fait. Jusque-là, j'ai le lancement qui a été sans visage, c'était un peu risqué. Le moment où j'ai montré mon visage, et le moment
Qui était encore plus risqué.
Et le moment où j'ai plus trop parlé de minimalisme, où je l'ai clairement dit, en fait. Donc, c'était 3 changements, et en vrai, à chaque fois... ça s'est pas si mal passé, tu vois. Donc faut quand même relativiser. Je pense que ça va pas s'effondrer du jour au lendemain si tu prends des risques. Et...
Je pense que la question du pourquoi, elle est hyper importante. Parce qu'en fait, tu vois, si on reprend ton exemple, je pense qu'au final, t'aurais pas été heureux si t'avais continué à parler de minimalisme uniquement. Et du coup, est-ce que t'as envie d'avoir... C'est une question... ça n'attend pas de réponse, mais en gros, si tu projettes le truc, tu peux te demander est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir une chaîne sur le minimalisme avec 50 000 abonnés ? Ou est-ce que je préfère avoir une chaîne avec 15 000 abonnés, mais dans laquelle je peux parler ce que je veux, je parle de dev perso qui m'intéresse plus, qui est un sujet plus vaste, etc.
C'est la réponse. Ma réponse, c'était que je préfère avoir une chaîne qui parle de dev perso. Et en fait, si ça ne fait plus sens de continuer à faire un truc, il faut tout simplement pas se forcer et arrêter, en fait, ou changer de direction, tu vois. Je fais pas... Je considère que j'ai suivi un chemin de vie qui me permet de faire certains choix. Partant de là, j'ai pas envie de me mettre certaines limites. Et aujourd'hui, c'est encore supportable en vrai de faire une vidéo par semaine. Mais le jour où ça sera plus supportable, je ferai comme le jour où j'ai commencé à montrer ma tête et comme le jour où j'ai commencé à arrêter de parler de minimalisme, j'arrêterai en fait tout simplement. Et je pense que c'est parce que au préalable, je me suis demandé pourquoi je faisais des vidéos, tu vois. Je suis pas youtubeur, tu vois. YouTube, c'est un moyen que j'adore, un moyen génial de raconter ce que j'ai envie de raconter et de créer. Je pense que c'est un des meilleurs aujourd'hui. Et du coup, pourquoi souffrir en fait par rapport à ça, tu vois ? Surtout qu'aujourd'hui, YouTube, moi, mon YouTube, c'est pas une énorme entreprise comme celle d'Ali Abdal. Si demain je disparais, voilà, là, le manque à gagner, il est pas énorme.
Ouais, YouTube fermera pas. Voilà. En tout cas, pas tout de suite, mais.
Voilà. Bon, une étoile montante de perdu, mais c'est pas grave. Ouais, non, mais. Et ça sert à rien de continuer, alors que je peux faire autre chose à côté, ça sert à rien. Et pour moi, c'est ça, être intentionnel, tu vois, on en revient à la question de l'intentionnalité. Si tu te demandes pourquoi tu fais les choses, c'est beaucoup plus facile de dire non à certaines choses.
Ouais, à partir du moment où tu sais pourquoi, mais même ça simplifie en fait beaucoup les questions que tu te poses, parce que du coup, il y a des questions qui n'ont pas de sens, tu vois. Et je prends du coup plus mon exemple avec ma chaîne. Moi, en vrai, c'est sur ça que je suis frustré, c'est que j'accorde énormément d'importance au fait de continuer à apprendre des choses parce que tu te considères pas comme un youtubeur et en vrai, moi je m'en fiche en fait de l'appellation etc, mais en gros c'est pas YouTube qui m'intéresse, c'est le fait de faire des vidéos, tu vois, ce serait une autre plateforme, j'en aurais rien à foutre.
Ouais, moi aussi.
C'est vraiment le côté vidéaste en fait et de réussir à raconter quelque chose sous cette forme artistique là.
Et aussi parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais de faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire en fait. Si ça devient trop facile d'arriver, de brancher la caméra, de parler face cam, de faire tes petits montages de d'habitude et de publier, pour moi c'est pas drôle. Si ça devient trop facile, on arrête quoi, on arrête ça, on change de cap, tu vois.
Ouais,
et je pense
d'accord.
Que c'est ça qui marque à chaque fois mes changements de cap, c'est que ça devient trop facile. Genre t'as fini un niveau, tu peux pas rester dans ce niveau, faut aller voir ailleurs, tu vois.
Je suis d'accord. Je suis d'accord et en vrai, c'est aussi pour ça que moi, sur ma chaîne, j'ai plusieurs fois changé. Enfin, depuis le début, j'ai un peu une ligne directrice qui est le développement personnel. Mais j'ai des sous-thèmes, entre guillemets, que j'ai développés à certains moments et puis que j'ai refermé. Et du coup, maintenant, j'ai choisi de dire, bah, en fait, ce sera du dev perso, de la philo et de la psychologie. Mm-hmm. Parce qu'en réalité, c'est les trois thématiques dans lesquelles je pense pouvoir suffisamment m'épanouir pour pas me sentir contraint chaque semaine de devoir parler que d'introversion, que de tel sujet, etc. D'autant plus quand tu dois produire une vidéo par semaine et donc que tu as deux jours pour créer ce dont tu vas parler et ta vidéo, quoi.
Mais cela dit, je pense qu'au début, c'est bien. Si, par exemple, il y a des personnes qui nous écoutent et que vous voulez vous lancer sur YouTube, moi, je pourrais pas donner meilleur conseil que faire une vidéo par semaine. Et si je dois donner un conseil supplémentaire parce que ça correspond à mon chemin, nichez-vous et soyez limite des bourrins dans votre niche, en fait. Moi, c'est ce que j'ai fait au début avec le minimalisme. Et je me suis un peu différencié des autres sur mon approche du minimalisme. Et je faisais des vidéos que sur ça, chaque semaine. Et après, vous allez vous créer une base de personnes qui vous aiment pour ce que vous faites. Et vous pourrez...
Parler d'autres choses.
Mais c'est bien de... Tu vois, nous, on parle en tant que personnes qui avons déjà une certaine audience sur YouTube. Donc, c'est facile, mais... Je pense quand même qu'au début, c'est cool de se cantonner à ça. Mais il faut savoir, et je pense que c'est le questionnement dans lequel on est tous les deux en ce moment... Quand continuer et quand arrêter, tu vois, dans ce chemin d'une vidéo par semaine. Qu'est-ce qui est le plus sage ?
Ouais.
Je sais pas si... En fait, je pense, quoi qu'il arrive, que c'est compliqué depuis tard. J'ai du mal un peu à expliquer ce que je ressens parce que c'est pas quelque chose qui s'explique sur le terrain de la raison, en fait. C'est plus sur le terrain du ressenti et de la... Et c'est... Ouais, des passions, tu vois. Genre, à quel moment tu ressens que là, c'est bon, faut arrêter. Il y a un moment, je l'ai déjà ressenti plusieurs fois, comme j'en parle depuis tout à l'heure, il y a un moment où tu sens, il y a un truc qui se débloque, tu te dis, non, c'est bon, on arrête, on fait autre chose. Tu vois, je pense pas qu'il y ait un moment où rationnellement je vais me dire d'accord, à partir de cette semaine, je fais 2 vidéos par mois. Je pense que ça va venir, ça va se débloquer un jour.
Mais ce sera impulsif, c'est ça que tu veux
ouais.
dire ?
Ouais.
Et tu penses
pas au niveau de la raison, c'est.
Oui, mais tu penses pas que c'est aussi une question de fonctionnement et que c'est parce que t'es plutôt impulsif et qu'en fait, c'est le moment où genre tu vas switcher, c'est que t'auras un trop plein de frustration de une vidéo par semaine et du coup bah en fait ça va te débloquer dans ta tête et tu vas faire non mais en fait j'ai plus le choix, genre c'est soit je suis malheureux en continuant une vidéo par semaine, soit j'ai cette opportunité là ouais. de changer
ouais je pense
parce qu'en vrai
moi en fait, j'ai... ça vaut pas le coup d'être malheureux dans ses créations,
bien sûr, mais je te parle d'impulsivité et de trop plein parce qu'en fait moi je remarque que pour plein de trucs dans ma vie, pour plein d'expériences, souvent en fait c'est une idée qui a commencé à germer et qui est pas partie. Et clairement, le truc de faire des vidéos moins régulièrement, tu le sais, moi j'y pense depuis genre 2 mois après avoir démarré ma chaîne et faire une vidéo par semaine. Déjà à ce moment-là, je me disais, ah mais tiens, est-ce que j'apprendrais pas plus vite si je faisais moins de vidéos ? J'ai choisi, et t'as fait partie d'ailleurs des gens qui m'ont convaincu que j'apprendrais beaucoup plus vite en faisant une vidéo par semaine au début. Et c'est pour ça que je m'y suis tenu et que je m'y tiens encore. Mais je pense que cette idée, elle a germé et elle finira par aboutir à un moment, tu vois. C'est pas un truc qui va et qui vient et... Je sais pas si t'as ça avec certaines idées, genre, qui restent, mais je pense que c'est quasiment certain que nous deux, il y a un moment, on fera plus une vidéo par semaine.
Non, c'est clair. Parce que, comme j'allais dire, ça vaut pas le coup d'être malheureux dans la créativité, je pense. C'est un extra dans la vie, la créativité. Enfin, créer des choses, tu vois. Autant aller faire un job alimentaire pour être malheureux dans ce que tu fais. C'est ça que je me dis. J'ai le privilège, entre guillemets, de créer et de vivre de ça et d'essayer tous les jours. Et je vois que ça résonne chez certaines personnes. Pourquoi être malheureux ? Pourquoi me brider, tu vois ? Autant faire ce que j'aime.
Et puis je pense aussi que la créativité, contrairement à d'autres choses parfois, c'est un but en soi. Tu vois, ouais. Tu prends l'exemple du job alimentaire. Le job alimentaire, c'est pas le but en soi. Le
c'est
but
ça.
En soi, c'est de gagner un salaire et de pouvoir en vivre.
Donc,
alors que la créativité, tu crées pour créer.
Donc,
tu crées
moment,
pas pour
fait,
en vivre.
Ça ne fait plus sens de faire des top 10 meilleures habitudes de toute la Terre ou je sais pas quoi, tu vois.
Ouais.
Ça ne sert plus à rien à partir d'un certain stade. Mais, encore une fois, je pense que c'est à voir en termes de saison, la créativité. Il y a plusieurs étapes à passer. Et ça se passe dans la tête, en fait. Ce que tu veux faire ou pas à tel moment... Par exemple, peut-être que je passerai à 2 vidéos par mois, puis je reviendrai à 1 vidéo par semaine, j'en sais rien. Mais c'est selon ce qui me semblera juste sur le moment. Et comme tu dis, c'est une fin en soi, donc si je suis pas heureux avec ce que je fais... Je vous rassure, hein, là je fais 1 vidéo par semaine, je suis heureux jusqu'ici, mais c'est vrai qu'il y a une idée qui germe dans ma tête,
ouais.
Tu vois. Et donc, le jour où j'en pourrai plus, ouais, j'en pourrai plus, et je ferai 2 vidéos par mois.
Et puis, je pense aussi qu'il y a une question de moyens et d'épanouissement dans la manière de faire, tu vois. Moi, je vois que le truc qui me frustre le plus aujourd'hui... C'est le côté storytelling et introspectif que je peux avoir vis-à-vis de moi-même, mais que j'ai pas le temps de raconter en vidéo.
Ouais, pareil.
Et du coup, c'est hyper frustrant parce que j'ai l'impression de faire un travail à côté et de pas en parler sur ma chaîne, alors qu'en fait, c'est un peu le but premier,
ouais,
quoi,
ouais.
De pouvoir partager ça. Et du coup, de me retrouver à devoir me reposer sur des expériences d'autres gens, sur de l'information, en fait, plus que sur mon expérience, mon ressenti, la manière dont je le vis, etc.
C'est clair.
Pour en revenir au fait d'avoir une idée qui germe, une des raisons, moi aussi, pour laquelle je pense que je finirai par ne plus faire une vidéo chaque semaine, en tout cas avec les moyens que j'ai actuellement, etc., parce que, évidemment, quand tu commences à avoir une équipe, c'est un peu différent, même si je pense quand même qu'en termes d'écriture, etc., tu peux pas faire une vidéo par semaine, même quand t'as des équipes, parce que, juste, t'as pas les histoires, enfin, t'as pas la matière première à partager. Mais je pense que ça rejoint pas mal l'idée que, au final, moi, je pense que... Je le ferai parce que je me dis que c'est une décision difficile à prendre et qu'une décision difficile amène une vie plus facile que l'inverse. Et que si je reste toujours dans le choix de la facilité de ne rien changer, il y a un moment où justement il va y avoir un trop-plein et potentiellement je vais me dire mais en fait j'aime plus ce que je fais, quoi.
Et encore une fois, si tu t'es demandé pourquoi au préalable et que ça marche pas, t'as pas de regret, en fait. Genre c'est juste que ça n'a pas pris, tout simplement. Mais si tu as bien planifié ton truc, que tu sais que c'est en accord avec ce que tu veux sur le moment et que ça marche pas, tu peux pas regretter.
Ouais, je suis d'accord.
Tu peux pas regretter, alors que t'as un peu le pire des deux mondes. Si tu continues une vidéo par semaine et imagine tu forces et ta chaîne elle marche plus.
Ouais.
T'as tout perdu en fait. T'as tout perdu. Tu peux avoir que des regrets.
Ouais, je suis totalement d'accord.
Un peu personnel cette fois-ci, mais en vrai, voilà, je pense qu'on en discutera un peu plus aussi de notre côté, mais.
Peut-être voilà. Qu'on en parlera en vidéo.
Peut-être qu'on en parlera en vidéo. On va peut-être passer au reco, non ?
Ouais, je pense que ce serait une bonne chose.
Passons au reco, alors.
Donc, ma reco, moi, cette semaine, c'est un créateur. Encore une fois, sur Instagram, j'avoue, je recommande souvent des créateurs sur Instagram. Mais en fait, je pense que le fait d'avoir créé un compte en anglais fait que, et qui marche bien, en fait, c'est surtout ça, fait que du coup, j'y passe plus de temps et donc je découvre d'autres créateurs. Et donc, le créateur dont je vais parler aujourd'hui s'appelle Devon Palmer. Il y aura le lien en description. Et un peu comme le créateur qui s'appelait American Baron, que j'ai recommandé il y a quelques semaines, il fait des petites vidéos où c'est lui qui joue plusieurs rôles. Et c'est hyper marrant. C'est souvent très absurde, mais c'est hyper intéressant. Et surtout, ce qui est cool, c'est que comme il fait ses vidéos depuis assez longtemps, tu peux voir la progression et voir justement comment il s'est amélioré au fur et à mesure. Et j'aime bien voir ça chez les créateurs. Je sais pas d'ailleurs si les gens qui nous écoutent font ça. Toi, je pense que tu le fais. Mais d'aller voir des vieilles vidéos pour voir comment les gens ont évolué, ouais. À quelle vitesse, etc. Ouais. Donc voilà ma reco pour cette semaine. Peut-être que tu as une recommandation toi aussi, Lucas.
Ouais, alors à la base, j'étais venu avec d'autres recos, mais en fait, finalement, je pense que je vais recommander les documentaires de
animalier.
Nourriture. Non, pas animalier, bien que j'adore les docus animaliers, les docus de nourriture.
Ok, en général.
Notamment
ou...
sur Netflix, ils font des très bons docus de nourriture. Moi, j'adore les docus de nourriture, tu vois, à travers le monde. En fait, encore une fois, je trouve que la nourriture, ça va au-delà de l'assiette. Ça te permet d'en connaître beaucoup sur une culture, sur une histoire, sur un peuple. Donc, on connaît beaucoup mieux les gens avec leur nourriture. Et on apprend à connaître des gens autour d'un bon plat, je pense. Donc, je recommande les docus de nourriture. Et la nourriture aussi, nourrissez-vous bien. Manger, c'est important.
Manger, bouger même, non ?
Mangerbouger.fr. Et franchement, encore une fois, je dise peut-être, mais je réfléchis à des bons formats sur ma chaîne pour introduire la nourriture.
Quel forceur.
C'est tout pour moi, pour cette semaine. Ah oui, je recommande Tom Chin aussi.
Ça faisait longtemps. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup, Lucas. C'était cool d'enregistrer cet épisode avec toi.
C'était incroyable. J'ai pris un plaisir monstre à enregistrer ce podcast.
Je sais pas si on est obligé de répéter ça à chaque fois.
Tu penses ?
En fin de podcast, chaque semaine.
C'est toujours un plaisir. Moi, j'aimerais que les gens comprennent.
Ouais, c'est toujours un plaisir, mais...
C'est un plaisir. Par contre, il y a un truc qu'on est obligé de répéter. Tu sais, c'est quoi ?
Ouais.
C'est qu'il faut que vous mettiez...
Moi, je sais.
Il faut que vous mettiez 5 étoiles.
Tu te souviens ce que c'est ?
C'est 5 étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Parce qu'en fait, si vous faites pas ça, notre podcast va mourir. Vous rendez pas compte. Donc...
Et nous, on va disparaître.
Non, mais franchement, prenez une seconde, mettez-nous une note sur vos plateformes de podcast préférées, ça nous ferait énormément plaisir et ça nous permet de continuer, tout simplement.
S'il vous plaît, faites-le, parce que Lucas est grave déprimé, il va checker tous les jours s'il y a des nouvelles notes. Il m'envoie des messages et il est un peu au fond. Là.
Et je pleure, en fait. On vous disait il y a quelques semaines que les hommes ne pleuraient pas, mais je pleure
ouais,
à chaque fois.
C'est ce que j'allais dire, je pensais que tu voulais pas que ça se sache.
Non, ça va. Je me suis débarrassé de ma masculinité fragile, c'est bon.
Ah ok, tout est réglé alors.
Ouais.
Trop bien, bah ciao Lucas, à la semaine prochaine.
Salut Tom.
Ouais, je me démerderai avec ça.